Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Anas Wakri.
Bonjour.
Bienvenue pour cette première dans les experts de BFM Business. Vous êtes professeur affilié à l'ESCP, Guillaume Poitminal. Bonjour.
Bonjour.
Fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Je voulais lui parler logement, mais j'ai pas eu le temps hier au ministre, au Premier ministre.
Ça viendra.
Vous avez publié Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Xavier Timbeau, bienvenue.
Bonjour.
Directeur principal de l'OFCE. Est-ce qu'il faut bloquer la vente de Biogarant, Xavier Timbeau?
Alors, est-ce qu'il faut...
On a essayé de bloquer la vente de Danone à PepsiCo il y a quelques années. On avait créé des... On avait mis le mot stratégique pratiquement sur toute l'économie.
Voilà. C'est... Bon, il y a un petit risque d'abord, un, de mettre le mot stratégique sur toute l'économie. Deux, ben, en fait, il faudrait peut-être réfléchir à ne pas bloquer la vente de Biogarant en soi. Mmh. Ben, après tout, si Servier veut se débarrasser de Biogarant parce qu'il a du mal à faire fonctionner cette production de génériques, de médicaments à prix plutôt bas, qui sont des productions de masse, où il faut avoir un appareil productif très compétitif pour arriver à dégager des marges.
C'est fondamental ce que vous venez de dire. C'est de la production de masse, de molécules vendues déjà à bas prix, puisque ce sont des génériques. Mmh. Et effectivement, si on veut avoir un business model viable, il faut avoir une capacité de les produire pour pas trop cher.
Voilà. Donc,
bah oui, mais...
la bonne conception de la souveraineté, ça serait de dire, on voudrait un repreneur, parce que si Servier veut vendre, il veut vendre. Hein, je veux dire, le monde des affaires doit fonctionner aussi comme ça. Et quand un investisseur, un propriétaire veut se débarrasser d'une activité qu'il a du mal à faire fonctionner, bah, il faut que il trouve des gens pour pouvoir potentiellement le racheter, en tout cas au prix qu'il va pouvoir négocier. Mais ce repreneur, il doit plutôt être européen, si on veut assurer la souveraineté, qu'indien.
Alors, donc après, la nationalité du repreneur compte vraiment, alors, plus que le principe d'une vente à un étranger.
Elle compte pour au moins deux raisons. La première, c'est, vous l'avez dit, le mot souveraineté. Donc bah là, si demain on est confronté à une crise du type le Covid, la production de médicaments devient quelque chose de stratégique. Et c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que si jamais il y a un besoin intense de médicaments, au sein de l'Union européenne, on a un dispositif de loi qui va permettre d'organiser cette pénurie entre les citoyens européens de façon juste et équilibrée. Mais si l'Inde, qui est le producteur principal de médicaments, dit à ce moment-là, écoutez, on va d'abord servir notre population avant de s'occuper de vous, on ne pourra rien dire parce que, évidemment, ils sont souverains et notre souveraineté à nous ne nous permet pas de leur imposer une quelconque procédure de partage. Voilà. Donc, c'est important pour ça, on s'en est rendu compte au moment du Covid.
C'est plus important que les yaourts, je suis d'accord.
Et puis.
Ça dépend.
Alors, c'est ça dépend parce que les yaourts, ça nourrit la population.
Oui, mais. Bon,
non, mais surtout, c'est peut-être pas par rapport aux yaourts qu'il faut comparer, mais c'est plus important que d'aller gratter quelques centimes sur une boîte de comprimés. Voilà, il faut voir qu'est-ce qu'on perd en fait à faire racheter Biogarant par les Indiens. Ou qu'est-ce qu'on gagne en termes de prix? Peut-être pas grand-chose. Par contre, ce qu'on perd, c'est en souveraineté. Après, la deuxième raison, c'est que on peut vouloir aussi, et c'est pas simplement un argument de souveraineté, mais que on peut s'interroger sur pourquoi l'Inde peut produire des médicaments à des prix qui sont plus bas qu'en Europe. Alors, ça peut être parce qu'ils sont meilleurs, ça peut être parce qu'ils sont plus innovants, ça peut être parce que ils ont plus d'économies d'échelle, mais ça peut être aussi parce que, peut-être qu'on en parlera, ils ne payent pas des salaires décents, peut-être qu'ils ont des pratiques sociales qui ne sont pas comparables aux nôtres.
Bien sûr, Xavier, peut-être
qu'ils ont accès à un coût de l'énergie qui est plus bas parce qu'en fait, ils ont une énergie qui est moins régulée et moins verte. Peut-être qu'ils ont...
du charbon.
Voilà, peut-être que...
C'est nous qui ne sommes pas assez compétitifs et qui...
Oui, mais peut-être que...
On ne va pas devenir indien. Même si on passe de l'État providence à l'État protecteur, on ne va pas passer à l'État protecteur à l'indienne.
Donc voilà,
peut-être... Mais je vous laisserai genre dans un instant. J'ai un auditeur qui vient de me donner une...
Peut-être qu'ils polluent leur rivière. Et donc, on n'a pas forcément envie que nos médicaments coûtent 5% de moins en échange de toutes ces abandons sur un certain nombre de principes. Et à ce moment-là, le fait que ce soit produit en Europe, dans un marché qu'on peut vouloir compétitif, enfin il y a 500 millions de consommateurs en Europe, donc arriver à faire de la production de médicaments compétitive, c'est possible. Donc on ne va pas se retrouver face à un monopole. Je veux dire, la relation un peu ambiguë de Servier avec les autorités publiques est quelque chose de discutable. On l'a vu au moment de l'affaire du Mediator. On n'a pas forcément envie d'être face... Enfin, je veux dire, le Big Pharma, ce n'est pas des enfants de cœur, hein, on le sait, loin de là. Donc, il faut
pas enterrer Big Pharma, mais ils sont pas des enfants de cœur.
C'est pas
des
enfants de
cœur. Il y a souvent la volonté de on aime bien détester Big Pharma.
Voilà. Mais
moi, je préfère vivre en 2024 qu'en 1960 en termes de capacité de traitement pharmaceutique.
Oui, mais moi aussi. Mais c'est pas des enfants de cœur.
Oui.
Donc, il faut le savoir. Donc, il faut pas, quand ils vous appellent en disant, les médicaments sont pas assez chers, montez-moi les prix, dire, bah oui, bien sûr, on va les monter.
Oui, mais c'est un autre sujet.
C'est pour ça que je vous dis, si Servier veut vendre Biogarant, qu'ils le vendent.
D'accord, mais à un Européen.
Mais à un Européen.
Cet auditeur qui écrit souvent, qui s'appelle La Pravda, m'écrit quand même c'est un vrai sujet, et je fais réagir Anna dans un instant, et Guillaume, mais il écrit ça avec ses mots. Hein, la sécurité socialiste a ses prix administrés, et ça fait fuir l'industrie pharmaceutique qui refuse de vendre à perte en aggravant notre dépendance aux importations. Il va un peu loin. Mais il y a un sujet en France sur le prix des médicaments qui est franco-français quand même.
Mais il y a un sujet en France sur le prix des médicaments, mais bien sûr. Et pour le coup, il faut avoir une régulation du prix qui permette aux pharmaciens, enfin à ceux qui fabriquent des médicaments, de pouvoir rentabiliser les investissements considérables qu'ils font. Non mais ça, je pense que là, il n'y a aucun problème. On a les moyens de le faire. On peut l'organiser à l'échelle européenne avec une concurrence intense entre des industries pharmaceutiques multiples. Donc faisons-le.
J'ai pas vu le mot pharmacie là dans le New Deal de la compétitivité. Anna, par rapport à ce qu'on a dit.
C'est justement lié. Bon, là pour le coup, je reste quelque peu perplexe.
J'ai pas le micro là parce que
sur la nationalité. Que ce soit un Européen ou un autre, pourquoi on devrait juger effectivement de décider de la nationalité d'un repreneur d'une entreprise jugée d'importance stratégique européenne? Non, ça va contre les valeurs de l'Union Européenne, qui sont quand même celles du libre-échange et de la libre circulation, et ça va au contraire à l'encontre de la souveraineté. Ça va à l'encontre de la souveraineté parce que ça va se priver potentiellement de partenaires commerciaux. Déjà, alors l'Inde quand même, c'est quand même le marché où il faut être. Hein. C'est quand même le marché, c'est vraiment, dans 3 ans, on estime qu'elle deviendra la 4e puissance économique mondiale.
C'est vrai aussi.
Donc on ne peut pas se priver de l'Inde. Ensuite, c'est surtout pouvoir ensuite bénéficier justement d'un positionnement stratégique qui va être supérieur, puisque en faisant cette vente, Servier va pouvoir utiliser justement ce revenu-là pour développer sa R&D dans des innovations et des brevets pharmaceutiques et autres, et des innovations qu'elles sont beaucoup plus, hein, vraiment à très haute valeur ajoutée, plus que les médicaments génériques. Hein, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se développent, notamment dans les pharmatechs. Donc voilà, ça va être une source de revenus pour augmenter, donc améliorer la compétitivité justement européenne. Et ensuite, également, pouvoir développer des partenariats, et notamment des transferts de technologies, entre l'Inde et l'Union européenne. Et ça, c'est critique pour s'assurer des débouchés. Et ensuite, il y a autre chose par rapport aux médicaments. Alors effectivement, il faut réussir à concilier rentabilité pour les laboratoires, bien entendu, et prix pour les consommateurs. Et donc ça, aujourd'hui, dans le financement de la protection sociale en France, il y a effectivement, hein, la plus grande partie, la branche maladie, médicaments et autres. Quand on regarde le déficit, quand on regarde les différentes sources de déficit de la sécurité sociale, donc là, si on veut justement assurer cet équilibre, donc il faudrait effectivement augmenter le reste à charge des médicaments, mais d'une manière un peu... d'une manière qui soit progressive, évidemment, selon les niveaux de revenus, les minima sociaux, etc., des uns et des autres.
Augmenter le reste à charge de manière progressive ?
Alors, oui. Augmenter le reste à charge de manière progressive, mais de manière, par rapport aux revenus, mais de manière, en fait, est-ce que ça puisse alimenter le financement de la sécurité sociale, notamment, hein, le financement de la protection sociale, et particulièrement de la branche dépendance, hein, qui va devenir...
qui va s'imposer, oui. Et donc ça veut dire que plus on est riche, plus on paye cher ses médicaments.
C'est ce le reste à charge, oui, ça va être progressif.
Non, mais si c'est, tout à fait. Le reste à charge n'est pas progressif aujourd'hui.
Oui.
Le reste à...
Oui, oui, absolument.
Donc c'est ce que vous me dites, parce que ça n'existe pas aujourd'hui en France.
Oui,
hein, on est bien d'accord.
Tout à fait.
Sans compter que c'est quand même un peu compliqué à faire.
Oui, c'est...
J'entends ce que vous me dites, mais j'ai justement l'impression qu'aujourd'hui, d'une manière assez profonde, ce que vous appelez la doctrine européenne, ce que vous me décrivez, une mondialisation heureuse, et la doctrine européenne, j'ai l'impression qu'elle est en train de changer. Et que, je vais passer la parole à Guillaume Poitrinal pour avoir son avis sur ce sujet, et puis même peut-être l'élargir à la notion de souveraineté versus protectionnisme. Le reste à charge progressif, vous me direz ce que vous en pensez, Xavier Timbaud. Parce qu'on pourrait aussi avoir on pourrait aussi avoir ces données fiscales enregistrées sur la puce de sa carte bancaire et ne pas payer le même prix lorsqu'on fait un achat en fonction de son niveau de revenu. Hein. On peut tout imaginer,
c'est vieux comme, techniquement. C'est vieux comme le monde, ça s'appelle l'assistance. Depuis la sortie de la guerre, les gens les plus pauvres, pendant très longtemps, on a eu le système de l'assistance où, en effet, les catégories les plus modestes de la population ne payaient pas leurs médicaments, ne payaient pas leurs soins.
Mais on n'a jamais eu du reste à charge progressif.
Et pour les gens normaux, en effet, la santé coûte un peu. Aujourd'hui, on est dans une santé quand même très collectivisée, puisqu'en fait, on a ce système d'assurance obligatoire qui fait que la santé est gratuite quasiment, à de nombreux points de vue, et ça peut poser un problème, parce qu'en fait, les besoins vont augmenter, ça inévitablement, avec le vieillissement de la population, et donc il y aura inévitablement des restes à charge, et il faut souhaiter en effet que pour les équilibres sociaux de la France, et ça vienne pas heurter le portefeuille des plus pauvres, dans lequel il reste déjà plus grand-chose.
Juste par rapport à ça, c'est surtout le risque sur la dépendance, c'est quand même le grand oublié, le grand absent des débats, parce qu'aujourd'hui, c'est seulement 0,15 points de tout le rendement de la CSG qui est dédié à financer la branche dépendance, donc la branche autonomie, bien sûr, qui finance la dépendance. C'est à peine 6% des dépenses du total des dépenses de la sécurité sociale.
Mais ça va augmenter, ça, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord.
Et qui vont augmenter, et c'est quand même critique. Et là, on en revient à comment on restructure le financement du modèle de protection sociale en France, et ça fait le lien pour permettre plus de compétitivité, justement, c'est de basculer deux points à peu près qui pèsent sur les cotisations patronales qui sont de l'ordre de la maladie, qui sont de l'ordre de l'universel, la maladie, maladie, maternité, vieillesse, pour les diminuer, donc ces deux points-là, les mettre sur la CSG. Et alors, évidemment, donc c'est le grand débat, la CSG, qui est plus concernée par la dépendance, qui bénéficie quand même le plus. Ah oui, c'est quand même les retraités. Donc les retraités, si on regarde, c'est le taux de CSG, il y a un point d'écart par rapport aux actifs.
Absolument,
donc si on relève d'un point, j'ai regardé, j'ai fait le calcul, un point de taux de CSG sur les revenus sur les retraités, ça rapporte à peu près 3,3 milliards. Donc vous voyez, on est largement à la compensation. Et donc ça permettrait de manière harmonisée, justement,
d'à
la fois améliorer la
compensation. Oui, on s'est éloigné.
Parce que la protection sociale, justement, les prix des médicaments.
Non, mais en fait, c'est hyper intéressant.
Moi, je me permets d'insister quand même. Question de savoir où sont produits les médicaments, est-ce qu'ils sont produits sur le territoire européen
J'ai compris votre
Ou est-ce qu'ils sont produits à l'extérieur je veux dire, il n'y a pas besoin de faire un effort de mémoire très important. Rappelez-vous au moment de l'épisode des masques, mais aussi au moment de l'épisode des vaccins.
Bien sûr.
Être capable de produire soi-même les matériaux et les éléments critiques quand on en a besoin, c'est essentiel. On peut compter sur le libre-échange.
Être capable de garder des bonnes relations avec les partenaires commerciaux internationaux,
s'assurer
les approvisionnements, c'est essentiel.
Oui, mais malheureusement, on vit dans un monde où on voit que ces choses-là basculent extrêmement vite et que si demain la géopolitique détruit ces liaisons qu'on peut avoir avec ce qu'on appelle aujourd'hui les partenaires, enfin, l'Inde, on peut considérer que c'est un partenaire, on peut considérer qu'on doit approfondir ce partenariat, mais je vous rappelle comment au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Inde n'a pas pris la position occidentale.
Non mais c'est juste. Il y a un sujet stratégique. La vraie difficulté pour les dirigeants, c'est de savoir quel médicament est stratégique ou n'est pas stratégique. Si on nous avait dit il y a 10 ans le paracétamol est stratégique, on aurait bien rigolé tous.
C'est vrai aussi.
Peut-être que ce qu'on peut dire,
mais laissez-le terminer.
Et donc c'est pas simple. En fait, la réalité c'est que c'est pas simple. Mais moi je suis tout à fait d'accord. Moi je suis assez interventionniste. Je suis pas
préférence
là-dessus. Je pense qu'il faut que le gouvernement agisse, définisse ce qui est stratégique et s'assure qu'il y a une production nationale des médicaments qui sont stratégiques. On est tout à fait d'accord.
En l'occurrence, on pense au générique de l'amoxicilline qui est très, très, très répandu en France.
C'est juste le faire d'une autre manière, parce que déjà, c'est pas au gouvernement, parce que je pense que ça n'a aucun sens de raisonner au niveau national. Il faut que ça s'inscrive dans la stratégie européenne, dans la stratégie de compétitivité européenne. Et dans ces cas-là, si on veut financer justement les médicaments de manière compétitive et surtout les médicaments de demain, qui vont être
faut laisser les autres faire les médicaments d'hier.
Non, mais ça peut se faire via notamment les PIEC, hein, tous les mécanismes en fait qui permettent de soutenir les innovations dans les start-up biotech, etc. Pour prendre cet exemple,
ce que ça veut dire,
et qui sont financés par la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement sont soutenus. Et donc, c'est les projets européens c'est les projets d'intérêt, projets d'intérêt stratégiques essentiels.
C'est de la dynamique d'investissement au niveau européen.
Mais d'investissement très risqué et vraiment des investissements typiquement les pharmacies.
On va avancer, Anna, mais si je comprends bien ce que vous me dites, bon, il y a des médicaments d'hier que certains peuvent produire beaucoup moins cher, il faut qu'ils le fassent et à nous d'entretenir des bonnes relations avec eux, même si c'est au bout du monde, et concentrons les capitaux disponibles sur le monde de demain. Comment vous réagissez, Xavier Tabot, à l'idée que le reste à charge pourrait devenir progressif et qu'une partie du financement de la santé devrait être basculée sur la CSG ? C'est vieux sujet, hein, l'histoire de CSG sociale.
C'est un vieux sujet.
CSG sociale.
C'est très difficile.
Il a été remis au goût du jour par Bruno Le Maire dans son dernier livre.
C'est très difficile d'avoir un reste à charge, c'est-à-dire la partie dépenses qui soit progressive. Ce qui est plus facile à faire, c'est d'avoir un prélèvement qui est progressif. C'est assez simple.
Ça, on sait faire aujourd'hui.
Voilà, on sait faire. Parce qu'on a un impôt progressif, et donc faire un prélèvement progressif, c'est pas plus compliqué que faire que ce qu'on fait déjà. Faire un reste à charge progressif, c'est plus compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut arriver chez le pharmacien avec une information sur son revenu.
Oui, oui.
Il faut pas envoyer quelqu'un de plus pauvre que soi faire ses courses. Il faut faire une espèce de... Vous payez quelque chose, et puis ensuite on vous rembourse sur votre... Ça vous fait une espèce de crédit d'impôt... des choses qui vont devenir très compliquées, très peu lisibles. L'idée du reste à charge, elle est plutôt d'inciter les individus à internaliser une partie du coût et donc à leur donner un signal prix qui va faire qu'ils vont consommer un peu moins de médicaments et qu'ils vont faire un peu plus attention. Voilà, donc c'est ça l'idée du reste à charge. Est-ce qu'on doit avoir un signal progressif en fonction du revenu? Bon, peut-être, mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose de compliqué. En faire un volet de financement me paraît pas une très bonne idée, c'est pas très lisible, parce que c'est un reste à charge qu'on va faire payer aux gens qui sont malades, peut-être qu'on a plus envie de faire payer les gens qui ont de l'argent, c'est ça l'idée d'un système progressif, parce que qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui... Enfin, oui, et puis, bon, il y a toujours cette discussion un peu surréaliste oui, mais on va faire payer les retraités, on va pas faire payer les jeunes, etc. Enfin, je vous rappelle, hein, tout jeune a vocation un jour à être un retraité. Donc, malheureusement. Donc, ce qui. Non, mais quand un jeune paye aujourd'hui.
Je le sais bien,
par exemple, l'idée qui dit il faudrait faire payer la dépendance aux vieux. Non, parce que, encore une fois, tout jeune a vocation un jour à être dépendant. Et donc, il n'est pas invraisemblable qu'il commence à payer aujourd'hui pour la dépendance des autres.
Enfin, c'est ça le principe. Il y a quand même des problèmes entre générations qui sont aujourd'hui considérables. Quoi. Donc,
certes.
On peut pas le nier, quoi. L'épargne, elle est aujourd'hui chez les retraités. L'immobilier, elle est chez les retraités.
À ce moment-là, peut-être il faut taxer l'épargne et l'immobilier.
Attention, on va marquer une pause dans 30 secondes. Je vous donne la parole après.
Les retraites aujourd'hui sont déconnectées des cotisations. Donc on a quand même ce sujet intergénérationnel qui est considérable et qui est une des bombes à retardement de ce pays. Et quand on voit qu'on continue à surindexer les retraites, c'est sûr que il y a un vrai sujet aujourd'hui.
On les surindexe pas, on les indexe.
Non. Oui.
Bon. Enfin, c'est déjà pas mal.
Moi, tout le sujet, c'est que là encore, pour des retraités, c'est très important, etc. Pour un certain nombre d'autres retraités qui habitent chez eux, qui n'ont pas de loyer indexé à payer toute la journée,
oui, tout à fait,
etc., et qui ne prennent pas le choc en fait, d'inflation sur leur portefeuille, bon, bah, ils se retrouvent un peu plus riches.
Évidemment,
quoi. Ils vont pouvoir épargner un peu plus dans leur assurance vie.
On marque une pause. Vous réagissez juste après.
Parce que j'ai dit que ce soit que les retraités.
D'accord. Vous réagissez juste après. La CSG, en l'occurrence, c'est tous les revenus. Hein. Ouais. Ça, on est bien d'accord. Revenus du capital. Si on.
Oui, mais vous avez quand même parlé de manquer de 1 point la CSG sur les retraités. Là, pour le coup.
1 point, là, on le mettrait au même niveau que les actifs. Bah oui, mais ça le mettrait le taux au même niveau que les actifs.
On marque cette pause. Je vous donne la parole. Non, mais c'est un sujet. On avait passé, je ne sais plus si c'était vous, Xavier, qui était là. C'était Eric hier. On avait passé 20 minutes à décrypter CSG, TVA sociale. À l'arrivée, quand on prenait le temps de le faire, c'était passionnant. À part faire ça dans la deuxième moitié, intégralement, bien sûr. Le New Deal de la compétitivité. Il faut de l'épargne, il faut un marché unique, il faut une union de l'énergie. Voilà en trois mots. Et Enrico Letta dit qu'il faut l'union des marchés de capitaux. Et puis, est-ce que la situation n'est pas plus préoccupante que d'habitude au niveau des finances publiques? C'est ce que j'ai dit à Gabriel Attal hier. Il m'a dit pas du tout. C'est nous qui sommes beaucoup plus prévoyants en engageant 10 milliards, plus 10 milliards d'euros à peine l'hiver terminé. A tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.